avec un gars que vous aimez, Hugo Girard, ex-police. Il a été 13 ans. Merci d'être là, Hugo.
Bonjour.
Depuis devenu animateur à succès et à l'occasion de la parution de ton livre « Et comme j'ai peur de rien », où ce sont finalement tes récits de voyage tirés de l'émission « À vos risques et périls », on trouvait que c'était une bonne idée de te recevoir en entrevue sans filtre. As-tu eu peur à un moment donné pendant ces voyages?
Honnêtement, non. Est-ce que j'ai été nerveux? Oui. Vous savez, la peur, elle peut prendre différentes formes parce que la peur peut te geler puis t'empêcher de réfléchir et de faire les bonnes choses. Et des fois, la peur peut devenir un élément de motivation puis une façon de pouvoir centrer tes énergies puis toute ton attention sur une problématique quelconque. Puis moi, je suis plus de ce genre-là. Donc, lorsqu'il arrive des situations où ce que ça génère de la peur, j'ai l'impression que ça aiguise mes sens et que là, mais c'est un peu, sans dire que c'est un jeu, ça rend les choses plus intéressantes parce que tu dois vraiment prendre les bonnes décisions. Sinon, la mauvaise décision, c'est peut-être la dernière que tu vas prendre.
Exact. Quel a été le moment de ta vie où tu as été le plus en déséquilibre, tu dirais, où tu as eu peur pour toi? Pas parce que t'étais dans une ville dangereuse, mais parce que tu vivais quelque chose de...
C'est jamais sur le moment. C'est par après que tu le fais. Je me souviens que d'une occasion où j'ai fait, alors que j'étais enfant, mettons, jeune adolescent, puis que je jouais avec des allumettes, puis là, ben, j'essayais de mettre le feu dans une tank à gaz, puis c'était du diesel. Et donc, ça partait pas. Puis heureux pour moi, parce que je serais pas là aujourd'hui. Puis des fois, ben, je repense à ça de temps en temps, puis ça me réveille quand je dors. Mais sur le coup, tu réalises pas. Donc souvent, la peur, c'est un peu ça. Lorsque tu le vis dans le moment, il y a certaines personnes que oui, elles ressentent. Il y a des personnes qui ont peur quand ils n'ont pas à avoir peur. Et tu en as d'autres qui ne sentent pas. Puis là, mais plus tard, quand tu te mets à y repenser, puis tu réalises vraiment ce que tu as vécu, on dirait que là, tu en prends conscience, et là que tu vis cette fameuse émotion de peur-là. Donc, tu es chanceux de ne pas l'avoir vécu sur le moment, ou peut-être que tu devrais le vivre là. Chaque personne le vit de façon différente.
Mmh. Hugo, tu es un gars qui a un parcours exceptionnel, atypique. Tu es né à Sainte-Anne-de-Portneuf, dans un endroit où, magnifique endroit, mais il n'y avait pas de gym, il n'y avait pas vraiment de modèle. Toi, tes modèles, c'était les hommes forts du Québec que tu pouvais voir, qui te donnaient envie d'être comme eux. Tu t'es sorti de ton milieu pour devenir un des grands. Je regardais ça, là, t'as gagné tous les championnats canadiens d'hommes forts de 99 à 2004. T'as décroché les titres d'homme le plus fort de l'Amérique du Nord 2000-2001. T'as gagné au World Muscle Power en Écosse en 99-2000. Au Canada en 2002-2003-2004. T'as été l'homme le plus fort au monde.
C'est une autre époque. Puis ça, ben, je vois ça un peu comme un... C'est des étapes. Pour moi, tout le concept d'entraînement puis d'homme fort, c'était une façon de sortir de mon environnement puis de mon milieu quand j'étais jeune, puis de canaliser mes énergies pour faire de quoi de positif au lieu de tomber dans des choses négatives, que ce soit la consommation ou faire des mauvais coups, ce qui était vraiment facile d'où je venais. Et il y avait plusieurs jeunes, c'est pas différent d'ailleurs. Ouais. Lorsque tu sais pas quoi faire, mais des fois, tu te fais faire des mauvaises choses. Et c'était aussi une façon de sortir du milieu dans lequel j'ai grandi, qui était assez chaotique, et que d'avoir des ambitions, c'était pas très commun. Donc, mes parents n'avaient pas nécessairement des ambitions pour moi. Si j'en avais pas eu, j'aurais possiblement fait ce que les autres faisaient dans le village. J'aurais travaillé soit comme pêcheur ou j'aurais travaillé dans le bois.
Ouais. C'était quoi, tu dis, milieu chaotique, milieu de famille?
Ben, chez nous, mes parents se sont séparés. Donc, c'était famille monoparentale, faible revenu.
Quel âge t'avais?
J'avais 10 ans.
Ouais. Ça affecte beaucoup, ça.
Ouais, ça affecte. Puis ça affecte aussi parce que je peux le vivre à travers mon garçon, où ce que tu deviens partenaire de ses rêves. Et tu deviens partenaire de ses projets, puis tu l'encourages. Moi, pour jouer au hockey, il fallait pratiquement que je me batte pour pouvoir avoir qu'on paye mon inscription. Et par la suite, mais avoir l'équipement, mais c'était jamais de l'équipement neuf, c'était souvent de l'équipement usagé qu'on trouvait à droite et à gauche. Donc, c'était jamais une situation, puis je suis pas différent, je suis pas en train de me plaindre. Fait que je vous dis que c'est une réalité qu'on ne vit plus maintenant. Puis c'était la mienne. Puis là, mais tout d'un coup, tu avais l'impression que chaque projet ou chaque chose que tu aurais voulu entreprendre, tu voyais beaucoup plus d'obstacles que de supports. Donc, quand j'ai réussi à les faire embarquer dans le projet de m'acheter de l'équipement d'entraînement. Puis là, je devais moi-même ramasser des fonds pour être capable d'en défrayer une partie des coûts, donc 50%. Ça fait en sorte que tout d'un coup, j'ai comme réussi à prendre le contrôle de ma vie, alors que tout ce qui entourait était hors de contrôle. Puis ça, ça m'a vraiment donné des outils pour réussir plus tard, parce que l'entraînement est devenu l'élément focal de ma vie. Puis en même temps, l'élément déclencheur de beaucoup d'autres choses, que j'ai réalisé que pour devenir le meilleur, il y a beaucoup de choses que tu devais faire.
Mais toi, rêvais-tu d'avoir une carrière dans la Ligue nationale? Par exemple, si tu avais pu, c'est ça que tu aurais préféré à être l'homme fort?
C'est sûr que j'ai joué au hockey un peu plus jeune, puis comme tous les jeunes, tu aurais voulu jouer dans la Ligue nationale de hockey, puis là, tu réalises assez rapidement que tu n'as pas nécessairement le talent. C'est beau rêver en couleur, t'as beau être un enfant, là, tu vois qu'à un moment donné, il y en a d'autres qui sont plus talentueux que toi. Ensuite, j'avais pas nécessairement le physique.
Mon
physique,
te demander, avais-tu déjà ce gabarit-là?
J'avais déjà un bon gabarit. Donc, mon physique m'aidait pas pour certaines choses, jusqu'au moment où j'ai trouvé la chose dans laquelle j'allais être bon. Et là, tout d'un coup, encore une fois, je me sentis souvent à part des autres, mais d'être à part des autres ne me dérangeait plus parce que j'avais trouvé quelque chose dans lequel je me sentais bien. Donc, pour moi, de m'entraîner, de faire mes choses, c'était ma façon de réussir. Et j'ai compris que si je voulais exceller, il fallait que j'excelle dans toutes les autres sphères de ma vie. À l'école, j'étais un premier de classe parce que si j'avais des bonnes notes, mes parents me laissaient du temps puis je pouvais faire à peu près ce que je voulais.
Tu étais bon à l'école.
Moi, j'étais pas bon, j'étais très bon.
Très bon à l'école.
Ouais. Puis ce qui est drôle, parce que souvent, je m'en souviens, j'avais gagné un prix littéraire. Puis c'est drôle maintenant que j'écris un livre. J'avais pas pensé à ça.
Ouais, ouais.
Puis quand j'étais dans l'autobus pour nous emmener à la soirée, les autres élèves étaient là, comprenaient pas pourquoi j'étais là. Donc, quand on parle de préjugés, ouais, les différences dérangent à l'adolescence, mais c'était le cas. Ce qui m'aidait, c'était ma stature. Et plus tard, ben, ma carrière d'homme fort, je l'ai toujours vu un peu comme un tremplin qui allait m'ouvrir les portes à d'autres choses. Parce que quand j'ai réussi à remporter le championnat mondial, pour moi, ça a été une consécration. Puis ça a plus été une ouverture ou un nouveau commencement plutôt qu'une finalité. Parce que là, j'ai réalisé vraiment que je pouvais faire tout ce que je voulais. Si j'y croyais vraiment, puis j'étais prêt à mettre le travail nécessaire derrière. Mm. Puis, à vos risques et périls, est un petit peu ça. Ce que j'aime du concept de l'émission, c'est que c'est pas comme faire des hamburgers.
Mm. Tu dois vraiment parce que c'était bon aussi dans les émissions de barbecue.
En plus.
Oui.
Donc, c'est de sortir de ta zone de confort,
ouais,
d'aller dans les endroits où ce qu'a pris ma barre, premièrement, non, pas à prime abord, on devrait pas y aller.
Ouais.
Combien de fois je me suis fait intercepter par les policiers pour me dire que j'avais pas d'affaires là, que je devrais pas y être et qu'ils pourraient rien faire pour nous s'il arrivait quelque chose.
La place la plus dangereuse, dans ton livre, là, tu parles de Camden.
Camden, New Jersey, est un endroit, si on y va au niveau proportionnel, si on ramenait Camden à la grosseur d'une grande ville, donc New York, mm-hmm, par exemple, ben, y aurait 7000 meurtres par année.
Oh mon Dieu!
Donc, et puis si ça avait l'ampleur de Montréal, 3500. Donc, Camden, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de motel, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a rien où ce que tu peux avoir vraiment là, un attroupement de personnes. Donc, il y a des gens qui y vivent. Il y a quelques industries.
Ils vivent de quoi?
Ben, c'est ça. On a beaucoup qui vivent du crime.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui vivent là, qui travaillent à l'extérieur, mais qui n'ont pas le choix de vivre là parce qu'ils n'ont pas d'argent pour déménager. Il y a beaucoup de gens que c'est pas une question de choix. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est là qu'ils sont venus au monde. C'est là que le parent était. Ils ont repris la maison paternelle ou maternelle. Puis les gens vivent là. Il y en a beaucoup qui partent aussi puis qui abandonnent les maisons directement.
Mm-hmm.
L'endroit le plus dangereux, selon moi, c'est Chicago, dans le Southside. C'est l'endroit où j'ai senti vraiment, là, premièrement, il y a beaucoup d'endroits où on sentait qu'on n'était pas les bienvenus. Mais là, tu le sentais et tu le voyais. Alors, on a arrêté dans un McDonald's pour aller chercher du lunch. On a commandé à l'auto parce que c'était trop dangereux d'entrer à l'intérieur. Puis ensuite, on a trouvé un terrain vague où on pouvait stationner puis voir tous les endroits où un véhicule pouvait arriver, entrer. Donc, tout le monde avait une sortie ou une entrée, un œil sur un côté du terrain pour être sûr que si on voyait quelqu'un arriver, qu'on ait le temps de déguerpir.
Est-ce que, tu vas nous le dire après la pause, est-ce qu'à un moment dans tes voyages pour le tournage de cette émission-là, entre autres, tu t'es rendu compte que, OK, là, t'allais peut-être un peu trop loin, puis que t'étais peut-être en danger, puis qu'il fallait là, que t'opères, puis que ça se passe vite dans ta tête, si tu veux bien, Hugo? Tu nous racontes ça après la pause. Restez là, tout le monde. Je suis en compagnie d'Hugo Girard en entrevue sans filtre, animateur d'une émission, entre autres, À vos risques et périls et de bien d'autres, puisqu'il est champion du barbecue. Si on en parlera dans ta prochaine visite, parce que la phase barbecue est comme passée. Mais celle.
Non, le barbecue, c'est à l'année maintenant.
Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. On l'a vu ces derniers jours. Il y en a même qui ont eu l'idée d'en faire à l'intérieur. À ne pas faire quand vous manquez d'électricité. On en profite pour le dire. Hugo, évidemment, tu t'es rendu dans des endroits. Je te parlais de la peur tout à l'heure et d'endroits où tu t'es dit, OK, peut-être que là, j'ai poussé trop loin. Je ne devrais pas être ici. Tu le dis d'ailleurs dans ton livre qui relate un peu ce que tu n'as pas pu mettre dans la série. À Bâton Rouge, entre autres, tu dis, quand c'est marqué là, par endroit, no trespassing, c'est une bonne idée de suivre ça. Où est-ce que tu t'es rendu compte que là, tu avais dépassé la ligne, la zone de sécurité pour toi?
C'est arrivé plein de fois parce que si tu ne la dépasses pas, on n'est pas en mesure de faire le travail. Parce que tu peux pas faire ce genre d'émission-là sans y aller.
Ouais. C'est mais à Bâton Rouge, là, t'as eu un peu la chienne.
Ben, à Bâton Rouge, j'ai pas eu le temps. C'est encore une fois, quand je te parlais, là, qu'à un moment donné, tu sens que ça peut mal virer. T'as pas le temps d'avoir peur, parce que si t'es en train d'avoir peur, tu vas rien faire.
Tu bouges pas. Alors qu'il faut que tu bouges.
Il faut que tu bouges. Ouais. Donc, il faut que tu prennes les bonnes décisions. Donc, il faut que tu sois capable de ralentir. Ça me fait penser un peu comme en compétition.
Ouais.
Tu essaies de ralentir pour pouvoir te concentrer et prendre la bonne décision. Puis là, nous,
si tu noues un peu l'action.
Ce qui arrive, c'est que je m'en allais rencontrer un leader là-bas qui s'appelle Silky Slim. Puis,
Qui était un chef de gang.
Qui
avait tué du monde.
Qui, apparemment, n'est plus dans le domaine, mais ça, c'est drôle, c'est souvent le cas. Hein. Lorsqu'on les rencontre, ce sont tous des anciens qui n'ont plus rien à voir avec le milieu, mais sont drôlement respectés pour du monde qui ne sont plus dans le milieu.
Ouais.
Pour faire une histoire courte, je me rends chez lui, on avait une heure de rendez-vous. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller me faire un peu là, une tête de l'endroit où je vais aller, au cas que ça irait mal, justement. Donc, je me rends souvent à l'avance. Ça nous permet de tourner autour. Je vais identifier l'adresse. Après ça, je vais faire le tour du quartier. Puis, je vais faire des cercles.
Tu fais du repérage.
Je fais du repérage, exactement. Puis, ça nous permet aussi de prendre des images. Une fois qu'on l'a fait une fois, qu'on sent la place, on a déjà identifié des spots. Là, on peut revenir. Puis là, ben, les gars vont sortir, vont prendre quelques images. Toi, tu restes à proximité. Puis, on est capable de jauger. En faisant ça, on a passé devant un crack house, un endroit où ils vendent de la drogue. C'est facilement repérable dans les quartiers parce qu'ils sont peut-être une vingtaine sur le perron à rien faire. Donc, les autres sont là pour faire de la surveillance. Puis les gens arrivent, puis ils débarquent, entrent à l'intérieur, font leurs affaires, puis ils s'en vont. Ou bien ils passent dans la rue, les voitures ralentissent, puis la transaction se fait là. On a filmé plein. Pour faire une histoire courte, quand on est passé la première fois, ils ont vu le véhicule, puis ils ont commencé à crier après nous. Puis là, j'ai passé vraiment en avant. Donc, pour ne pas attiser des problèmes, ce que j'ai fait en continuant de me promener autour, j'ai passé au bout de la rue, qui était environ peut-être à 150 pieds de la maison en soi, mais je n'ai pas entré dans la rue cette fois-là, parce que j'ai dit que je ne rentrerais pas, il ne faut pas voir exprès. Mais ils n'ont vraiment pas aimé ça, puis là, ils ont pris des pierres, puis ils ont lancé vers le véhicule, mais là, ils n'ont pas pogné parce que je n'ai pas arrêté. Puis, quand je suis revenu plus haut dans la rue, ben là, les autres, ils nous checkaient, là. Puis là, ça a comme été, OK, c'est beau, là. Là, ils ont vu partir la course. Puis ils sont dirigés vers un véhicule. Fait que moi, tout de suite, j'ai continué.
Ouais.
J'ai pris la rue qui passait derrière, puis je me dirigeais vers l'artère principale. Donc, je m'attendais là, qu'ils partent soit après nous, là, je regardais mon rétroviseur, ou bien ils allaient prendre leur rue qui débouchait sur la même fameuse
c'est
rue.
C'est du monde armé, là, ça.
Ben, à ce moment-là, tu le sais pas, mais tu le présumes. La plupart des jeunes dans le milieu sont armés. Puis quand j'arrive au stop, j'attends une fraction de seconde parce que je veux voir qu'est-ce qui se passe. Et là, dans le véhicule, il y a une situation de crise. Parce que là, il y en a qui crient. Puis là, ben, tu sens...
Des membres de ton
équipe.
Ouais,
tu sens qu'il y a de la peur. Là.
Ouais.
Et lorsqu'on les voit arriver, ils sont à ma droite, sur l'autre rue, ils s'immobilisent au stop, puis là, on se regarde. Fait que là, eux me crient de partir, mais là, je pars pas. Parce que je veux voir qu'est-ce que lui va faire, parce que techniquement, il faut que je me rende dans sa direction à lui, donc vers lui.
Mm-hmm.
Donc, ce que je veux pas, c'est me faire bloquer la rue, puis en même temps, de l'autre côté, que ça pose à débouche. Donc, ce que je fais, lui se dirige vers moi en prenant le sens inverse sur le boulevard. Et là, j'attends, puis là, ben, il s'immobilise devant moi, puis là, mon move était, quand que lui va faire son premier geste, un peu comme le gardien de but, qu'un joueur en échappé, mais ben, là, je vais prendre une décision, c'est là que ça va se passer.
Choquer, finalement.
Exactement. Puis là, ben, lui, il a juste arrêté un peu trop loin pour me bloquer le chemin, parce qu'il s'est placé pour sortir de son véhicule. Et là, en faisant ça, moi, avant qu'il soit fini d'immobiliser, ben là, j'ai embarqué sur le trottoir, et là, je suis parti, mais là, quand je passe aux côtés, on se regarde les deux, là. Fait que plus tard, j'étais avec Silky Slim dans le quartier, puis on est à une station-service en train de discuter, et nos quatre messieurs arrivent en voiture. Et là, ben ils se dirigent directement sur nous autres. Donc, j'avise, moi, mon interlocuteur, je lui dis, garde, c'est eux autres. Il est fait venir, puis là, ben on arrange une entrevue vite faite parce que c'est le boss, puis ils me disent, ben je lui demande, qu'est-ce que vous aimez faire? Ben ils disent, on s'en venait vous tirer.
Oh mon Dieu! Le punch final. Écoute, c'est incroyable. Tu nous donnes vraiment envie de lire. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Faites-le aussi. Et comme j'ai peur de rien, Hugo Girard, merci d'avoir été là.
Ça me fait plaisir.
À demain, tout le monde.